Les salutations de notre assemblée de Belfort. Fernand, qui est aussi ancien, est à Ensisheim ce matin. Donc on se partage un peu pour pouvoir être dans les petites assemblées, pour vous encourager, pour apporter les prédications. En tout cas, je le répète chaque fois que je viens, nous vous avons à cœur et nous prions pour vous. Et nous nous sentons très proches de vous. Je vous propose de lire dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, c'est un passage que nous connaissons bien, et les 16 premiers versets. Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le but de Dieu pour tout chrétien, pour nous tous ce matin, quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit le stade où nous sommes dans la marche avec le Seigneur, le but de Dieu pour nous, c'est que nous atteignions la maturité, l'état d'homme ou de femme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but de Dieu, ni plus ni moins. Ne plus être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, nous dit l'apôtre au chapitre 4 que nous venons de lire, versets 13 et 14. Ce que Dieu désire, c'est notre maturité, celle de notre foi, quelles que soient les évolutions qu'elle subit. Vous savez, c'est jamais à ligne droite, c'est souvent en dents de scie. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous soyons des hommes et des femmes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le but de Dieu, c'est que nous soyons semblables à son Fils. C'est un projet ambitieux, un projet extraordinaire, que nous soyons semblables à son Fils. Il va donc nous façonner pour que nous revêtions l'image de Jésus. C'est un processus long, qui dure toute la vie, mais malgré les hauts et les bas, c'est un processus qui va toujours en montant, ascendant, si nous nous laissons conduire par Jésus lui-même. Et lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit ceci: « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. » C'est quand il écrit aux Corinthiens au chapitre 13 et au verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Et aux Romains, il dit ceci: « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. » Dans Romains, chapitre 8, verset 29. Et en quoi consiste donc cette maturité vers laquelle le Seigneur veut nous conduire? Dans le Nouveau Testament, on voit ici et là des allusions aux chrétiens adultes. En Galates 6:1, Paul dit ceci: « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il parle là de chrétiens adultes. « Vous qui êtes adultes, vous qui êtes spirituels, nous savons donc, nous tous, qui sommes des hommes faits, spirituellement adultes, ayons cette même pensée, écrit-il aux Philippiens, au chapitre 3, verset 15. Le chrétien adulte se caractérise par son fruit. Comme tout arbre adulte porte du fruit, ainsi le chrétien adulte porte du fruit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur et la sagesse? C'est Jacques qui l'écrit dans Jacques chapitre 3, verset 13. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 9. Donc, il y a là des indications pour le chrétien adulte. Et l'apôtre, lorsqu'il écrit aux Galates, un texte bien connu, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le chrétien adulte se caractérise par une foi solide, ancrée dans les certitudes de la parole de Dieu, par une capacité à faire la part des choses. Il est capable de discerner, d'avoir une vie apaisée, même au travers des bourrasques de la vie. Voilà ce qui caractérise le chrétien adulte. Mais qui dit adulte ne dit pas parfait, car la parole nous dit que nous sommes loin de la perfection. Et l'apôtre Paul lui-même dit ceci: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et pour atteindre la maturité, il y a un certain nombre de choses à faire. Nous sommes sauvés par grâce. Le salut en Jésus-Christ est parfait, sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais il y a une marche avec le Seigneur. Et c'est là qu'intervient toute notre volonté que nous devons mettre en route pour marcher. Pour atteindre la maturité, il faut croître. Nous avons eu des enfants, vous avez certainement de jeunes enfants, et lorsque l'enfant naît, vous vous attendez à ce que cet enfant grandisse et qu'il atteigne la maturité. Il y a une démarche à faire pour la croissance. Autant la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui vient de Dieu d'une manière mystérieuse. Jésus dira à Nicodème: le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais nous d'où il vient, nous où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'eau, qui est né de l'esprit, et qui est né de nouveau. Mais pour ce qui est de la croissance, il y a un certain nombre de démarches à faire. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, leur dit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus en, bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que l'apôtre Paul ne dit pas que nous devons rajouter quelque chose au salut, rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ, mais il nous dit que nous devons travailler. Parce que nous sommes sauvés, nous devons nous mettre en route et travailler de toutes nos forces. Parce que Dieu nous a sauvés, nous devons aussi avancer et marcher. Il ne leur dit pas de rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ, mais il est question de se mettre au travail et d'avancer. Avancer, croître et atteindre la maturité, la stature adulte voulue par Dieu, il y a donc à faire quelque chose. Et ce n'est pas des choses très compliquées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit cœur qui dit « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » Vous le connaissez, ce petit cœur? Vieux cœur, hein, maintenant on chante des chants modernes, mais celui-là, de temps en temps, il me trotte dans la tête. Lis ta Bible.
À l'école des dimanches.
Vous le chantez. Alors, c'est aussi pour les adultes que nous sommes. Lis ta Bible, prie chaque jour. Et cela résume ce petit cantique, ce petit chant, ce petit cœur, résume, le secret de toute vie chrétienne. Si nous voulons avancer, il y a quelque chose à faire. Oui, lis ta Bible, prie chaque jour, cela semble facile. Et nous savons que dans la pratique, dans notre vie au quotidien, nous sommes assaillis par toutes sortes de choses. Moi, je suis retraité maintenant, j'ai un peu plus de temps que les autres. Mais quand j'étais en activité, il y avait toujours quelque chose à faire. Il fallait se lever assez tôt, il fallait surtout se lever tôt pour pouvoir lire sa Bible et prier, parce que sinon, une fois qu'on est parti, ben, la journée se déroule et puis on n'a plus le temps. Donc on a l'impression que c'est simple comme ça, mais en réalité, ce n'est pas toujours aussi simple, parce qu'on est assailli, on a tellement de choses, on a tellement de priorités que nous avons du mal à nous asseoir pour lire la Bible et pour prier. Lis ta Bible. Pierre dit à ses lecteurs, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 3. Et l'épître aux Hébreux fait des reproches à ses destinataires. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrait être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. L'écrivain est étonné. Il dit à ses lecteurs que eux qui devraient être des adultes, des hommes et des femmes capables de discerner ce qui est bien et ce qui est mal, des hommes et des femmes capables de discerner les circonstances, ils en sont encore au rudiment de la parole de Dieu. Et il leur dit qu'il faut qu'ils croissent. Il faut croire. Pourquoi donc autant d'insistance sur la parole de Dieu? Parce que Dieu nous parle par elle lorsque nous la lisons, soit directement, soit par les témoignages de ceux qui nous ont précédés dans la foi, parce que la parole de Dieu éclaire notre marche au quotidien. Ta parole est une lampe à mes pieds, et lumière sur mon sentier, dit le psalmiste. La parole de Dieu nous dit qu'elle-même, la parole, est une épée à deux tranchants. La parole nous dit quel est le casque, parce que cette parole est le casque du salut, et l'épée de l'esprit. Or, nous savons que nous avons des combats à mener tous les jours. Nous le savons bien dans notre expérience au quotidien. L'apôtre Paul leur dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et comment pouvons-nous remporter les combats si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne la lisons pas, si nous ne la lisons pas de manière assidue, si nous ne la connaissons pas. À l'heure de la tentation, Jésus avait utilisé la parole pour résister à Satan. Il a dit à plusieurs reprises, il est écrit, il est écrit. Et comment aurait-il pu dire il est écrit s'il ne connaissait pas la parole de Dieu? Alors, lisons la Bible, lisons-la, méditons-la pour pouvoir d'abord avoir les indications de la part de Dieu et ensuite pour être armés pour le combat que nous avons amené jour après jour. Si nous voulons être des adultes, nous devons lire la parole de Dieu. La lire, la méditer, la fréquenter, nous devons la connaître. Lis ta Bible, prie chaque jour. Et Jésus nous a donné lui-même l'exemple de quelqu'un qui priait. Il nous a dit que quand il lui renvoyait la foule, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, nous dit Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est quelqu'un qui priait, Jésus. Et il nous a laissé cet exemple pour que nous prions. Mais qu'est-ce que c'est que la prière? Vous savez, lorsque vous voyez des reportages sur les pays asiatiques, les bouddhistes par exemple, ils ont leur moulin à prière, ils tournent. Ils ont des drapeaux, ils ont toutes sortes de choses. Il y a des prières que les gens répètent sans arrêt. Mais la prière, ce n'est pas cela. La prière est un dialogue. Un dialogue avec Jésus, un dialogue avec Dieu. C'est un tête-à-tête avec notre Seigneur. Je l'ai peut-être déjà dit ici, mais il me semble qu'il est important de le rappeler. Si le Seigneur a tant prié son Père, c'est que c'est important. À combien plus forte raison devons-nous prier? En écrivant aux Éphésiens, Paul leur dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et Jésus dit à Pierre, au jardin de Gethsémané, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de Dieu. Et donc dans Luc et puis dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Priez. 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 Réjouissez-vous, disait l'apôtre Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière nous met en contact avec notre Père. Un moment privilégié, d'abord pour écouter, et ensuite pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Esaïe dira, l'Éternel éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. La voix de Dieu, parmi ce brouhaha de la vie, parmi toutes les voix que nous entendons, parmi tout le bruit, nous devons pouvoir discerner la voix de Dieu. L'Éternel éveille moi chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoute. Les disciples. Lorsque tu te présentes devant Dieu, présente-toi pour écouter. Car c'est ainsi que Dieu va calmer le bouillonnement de nos cœurs, nos inquiétudes, tout ce qui nous bouleverse. Il va nous dire la paix soit avec toi. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité et qu'il est apparu aux disciples, la première chose qu'il leur a dite, que la paix soit avec vous. À plusieurs reprises, que la paix soit avec vous. Les disciples étaient complètement bouleversés par ce départ, cette mort terrible. Et pendant 3 jours, ils n'ont pas vu leur Seigneur, ils étaient troublés, ils avaient peur, les Juifs, ils avaient peur d'être tués. La première chose que Dieu a dit, que la paix soit avec vous. Et Dieu va nous parler, Dieu va nous calmer, et Dieu va nous parler et nous écouter. Et c'est dans ce tête-à-tête que nous pouvons exprimer à Dieu nos souhaits, notre prière, nos demandes, ce que nous voulons, ce qui nous fait peur. Et dans cette prière de dialogue avec Dieu, nous exposons nos joies et nos peines, nos interrogations et nos incompréhensions, le besoin. Il y en a des incompréhensions dans cette vie. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Et le Seigneur nous invite à prier. Le Seigneur nous invite à le louer. Le Seigneur nous invite à demander. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, dit Jésus. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et lorsque les enfants de Dieu se réjouissent, cela fait plaisir à Dieu, comme lorsque nos enfants sont contents, sont heureux. Dieu nous demande de prier, nous dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et l'exaucement de la prière fortifie notre foi. Même lorsque Dieu nous dit, comme à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, il nous a parlé, il nous a donné une réponse. Il y a des moments où nous prions et on a l'impression que Dieu dit non, mais c'est une réponse. Et lorsque Dieu répond, il répond en fonction de nos besoins, en fonction de ce qu'il prépare pour nous, en fonction de ce qui est bon pour nous. Lis ta Bible, prie chaque jour. Et la troisième chose pour pouvoir atteindre la maturité, c'est de pratiquer la communion fraternelle. Donc, troisième chose, communion fraternelle. Comme un enfant a besoin d'un environnement sécurisant pour se développer et bien grandir, le chrétien nouveau-né, je dirais tout chrétien, a besoin de la communion fraternelle pour grandir et atteindre la maturité. La communauté nourrit et l'éduque. C'est en regardant les autres, en les écoutant, que le chrétien apprend les bonnes manières et les bonnes habitudes. C'est dans la communauté qu'on apprend, au travers des autres, à vivre et à marcher, à être fortifié. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume chez quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Veillons les uns sur les autres. Et lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu lui a dit, où est ton frère? Et Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous sommes gardiens de notre frère et de notre sœur. Veillons les uns sur les autres. Si Dieu a donné l'Église, si Dieu nous a donné l'Église, c'est justement pour cela, pour nous exhorter, veillons les uns sur les autres, pour nous exhorter et nous exciter aux bonnes œuvres. Et quand on modèle dans l'Assemblée, l'Épître aux Hébreux nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Je dirais que, sauf extrême urgence, sauf si les gens sont complètement loin de tout lieu de culte, il n'est pas normal qu'un chrétien se retrouve seul. C'est pas normal. Car un tison qui se retrouve tout seul, c'est un. Et c'est quand nous sommes ensemble que nous pouvons tous ensemble nous exhorter et que nous pouvons brûler de cet amour de Dieu. En tout cas, c'est une exhortation à ne pas s'éloigner, à ne pas s'isoler, mais il y a toujours quelque part dans les environs, sauf exception, une communauté à laquelle vous pouvez adhérer. C'est absolument indispensable. Mais si nous marchons dans la lumière, nous est-il dit, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La Bible prévoit cela pour chaque chrétien, une communauté. Et c'est dans le cadre de cette communauté que nous pouvons aussi exercer un ministère. Vous ne pouvez pas exercer un ministère tout seul dans la nature. notre service pour Dieu et pour les frères et sœurs. C'est là que nous adorons et prions, comme ce matin, avec les autres, que nous étudions la Bible ensemble, que nous partageons notre foi et que celle-ci se fortifie. La communauté est quelque chose d'essentiel, d'important pour notre croissance. Nous expérimentons ainsi la vie chrétienne qui n'est pas une somme de connaissances, mais d'expériences concrètes de la vie et de la relation avec Dieu et avec les autres. En fait, la vie chrétienne, la marche vers la maturité est comparée par Paul à un stade. Il dit qu'il y a une course. Vous savez, il y avait les Jeux Olympiques dans ce monde grec et romain. Et il a comparé notre marche vers la maturité, notre croissance, la marche vers la maturité à une course dans le stade, une piste, une course olympique. Et sur le stade, nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager mutuellement à avancer. La course, le combat. Le combat de la foi, le bon combat. Et vous savez qu'il y a énormément de combats dans la vie. Quand on parle du combat syndical, du combat politique. Je fais partie d'une municipalité et puis quelqu'un m'a dit une fois, mais toi tu ne sais pas ce que c'est le combat politique. Je dis, c'est pas mon problème. Je n'ai pas à combattre, à avoir un combat politique, mais j'ai à servir. Le combat de la foi, le bon combat. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, dit-il aux Philippiens. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est une course. Ce n'est pas une marche tranquille où on essaie de regarder les fleurs à gauche, à droite, on admire les pierres. C'est une course. Et nous devons nous mettre en route et courir. C'est une course. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et il dit lui-même, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé ou disqualifié après avoir prêché aux autres. En Corinthiens chapitre 9. Et puis à Timothée, l'apôtre Paul dira, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Et à la fin de sa vie, et nous terminerons par là, à la fin de la vie de Paul, l'apôtre Paul fait un bilan. Il fait un bilan. Et il va le résumer en trois petites phrases. J'ai combattu le bon combat. Toute sa vie, il a combattu, il a couru. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'était une préoccupation pour l'apôtre Paul. Vous avez vu dans cet épître aux Corinthiens où il dit, oui, il fait tout pour ne pas être désapprouvé. Et lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, comme un soulagement, il dira, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et c'est dans l'épître à Timothée où il parle d'un certain nombre de personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et lui-même n'était pas à l'abri de cela. Et lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, c'est comme un soulagement. Comme cet athlète qui arrive et qui franchit la ligne. C'est terminé. Et c'est le but vers lequel nous devons tous tendre en tant que chrétiens. Car la vie est courte. Même si les gens vivent, paraît-il, de plus en plus vieux. Dans les maisons de retraite, ce que je vois, c'est des exceptions. Hein. La plupart des gens meurent avant 80 ans. Hein. Mais à la fin, quelle que soit la durée de notre vie, que nous puissions dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Que le Seigneur nous encourage, chers frères et sœurs, par ces quelques mots, parce que lorsque nous avons des enfants, Nous ne pouvons pas penser qu'ils ne vont pas grandir. Ils ne vont pas penser qu'ils ne vont pas devenir des adultes. Et cette loi-là est la même pour la vie spirituelle. Nous ne devons pas nous contenter du minimum, mais nous devons marcher pour atteindre la maturité. Et je répète, il y a un certain nombre de choses à faire qui dépendent de notre volonté. Lire la Bible, prier, pratiquer la communion fraternelle, et puis résolument nous mettre dans la course, combattre, courir. Parce que si nous ne courons pas, nous reculons. Et qu'à la fin de notre vie, nous puissions dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Nous allons prier. Nous te disons merci pour ta parole et nous te prions, Seigneur, de nous aider dans les jours qui viennent, dans ce qui nous reste de vie, à vivre de ta vie et à marcher. Aide-nous à marcher et à atteindre la maturité comme tu le désires. Et bénis cette assemblée d'une manière toute spéciale, au nom de Jésus. Amen.